Vous écoutez On lit pour vous.
Je le fais pour l'avenir du Québec, un texte de Jean-Philippe Descaries, paru le 16 mars 2025 dans la presse. Pierre Lassonde, fondateur de la société aurifère Franco-Nevada, effectuera ce lundi un don historique de 50 millions à Polytechnique Montréal pour la création d'un institut dédié aux innovations de rupture. L'ingénieur de formation et philanthrope aguerri veut remettre la recherche fondamentale au premier plan pour contribuer à la croissance économique du Québec et du Canada. D'entrée de jeu, Pierre Lassonde fait remarquer qu'il a été passablement chanceux dans la vie, lui qui a souvent fait des gageures dans le domaine de l'exploration minière, avec des chances de succès de 1 sur 10 000, qu'il a remporté la plupart du temps. Des gageures qui lui ont permis d'accumuler une fortune considérable dans le secteur minier. Je veux faire la même chose avec la recherche fondamentale. Je veux donner la chance aux étudiants, aux professeurs, à Polytechnique, de faire des découvertes qui vont avoir un impact sur la vie de millions de gens, m'explique Pierre Lassonde, pour expliquer ce qui a motivé sa décision d'investir dans un institut dédié aux innovations de rupture. Il admet qu'à 50 millions de dollars, on parle d'une somme significative. Mais ce don s'inscrit dans une démarche qu'il a entreprise il y a 5 ans, soit depuis qu'il a accepté de devenir président du conseil de Polytechnique. Au cours des dernières années, il s'est beaucoup promené dans les laboratoires de Poly pour discuter avec les chercheurs et il a été saisi par la vision que lui a partagée le professeur Oussama Moutanabir sur l'importance d'avoir un centre de recherche en deep tech ou en innovation de rupture qui pourrait servir à toute l'institution. Les deux partenaires ont donc décidé de créer l'Institut Lassonde de l'innovation de rupture, dont le mécène souhaite laisser les portes ouvertes à toutes les technologies, quantique, intelligence artificielle, des photons à l'atome, afin d'en faire une sorte de catalyseur de l'innovation. Pierre Lassonde espère aussi que la recherche fondamentale qui se fera sorte éventuellement du laboratoire et profite au plus grand nombre possible d'individus. Polytechnique, dit-il, a été au cœur des grandes étapes de l'essor du Québec dans les années 1960 et 1970, avec la construction des grands ouvrages ou des secteurs comme l'aéronautique. Depuis 20 ans, on sent un petit creux et on voudrait relancer cette contribution de l'ingénierie avec notre Institut de l'innovation de rupture. On va être le seul institut du genre au Canada. Un don dans la durée. La moitié du don de 50 millions servira à la création d'un fonds de dotation qui permettra d'assurer la pérennité de l'Institut Lassonde sur les innovations de rupture sur de nombreuses années. L'autre moitié ira directement aux chercheurs professeurs et étudiants de maîtrise et de doctorat pour leur permettre de pousser au bout leurs projets de recherche avec une petite équipe qui assurera la coordination de l'Institut. Il n'y a pas d'argent qui s'en va dans le béton. Tous les fonds vont être consacrés à la recherche. On en a pour plusieurs années avant de recourir à notre fonds de dotation, souligne Pierre Lassonde. L'ingénieur diplômé de Polytechnique en 1971 rappelle la corrélation qui existe entre la croissance du nombre de diplômés universitaires et la croissance du PIB d'un pays. Il espère aussi que le nouvel institut puisse rehausser la notoriété de Polytechnique Montréal et lui permette d'attirer les meilleurs chercheurs au monde. Ce n'est pas le premier don que Pierre Lassonde fait à Polytechnique. En 2000, la famille Lassonde avait fait un don de 8 millions pour la construction de 2 pavillons. L'ingénieur minier, qui a fait son MBA à l'Université de l'Utah, a aussi donné 25 millions à cette institution pour la création du LaSonde Entrepreneur Institute, tout comme il a fait un don de 25 millions à l'Université Western en Ontario pour la création d'une nouvelle école de génie. À Québec, Pierre LaSonde est très associé au Musée national des beaux-arts, pour lequel il a fait un don de 10 millions pour la construction du pavillon Pierre LaSonde, tout en faisant don de plusieurs œuvres du peintre Jean-Paul Riopel. Le legs de 50 millions de la famille LaSonde est le plus important don jamais fait à Polytechnique, après celui de 14 millions de la fondation de la famille Trottier pour la création de l'Institut de l'énergie Trottier. C'est un don substantiel et on est très heureux. M. LaSonde s'implique depuis des années dans Polytechnique et il est très engagé dans son alma mater. Cela va avoir un impact important pour l'école, les étudiants et l'économie québécoise, souligne pour sa part Maud Cohen, directrice générale de Polytechnique Montréal. La culture philanthropique n'est pas encore aussi développée au Québec qu'elle l'est dans les institutions anglophones, et c'est pourquoi on peut espérer qu'un geste comme celui-ci puisse générer une certaine émulation chez les grandes fortunes québécoises. L'argent, ça ne vaut rien. C'est ce qu'on fait avec qui compte. On peut le dépenser, mais le plaisir dure une journée, une semaine peut-être. De faire des réalisations qui vont durer dans le temps et qui vont servir, c'est drôlement plus gratifiant, observe avec sagesse Pierre LaSonde. C'était « Je le fais pour l'avenir du Québec », un texte de Jean-Philippe Descaries, paru le 16 mars 2025 dans La Presse.
Le mot « stop » sur un panneau d'arrêt est de l'anglais, selon le Commissariat aux langues officielles, un texte de Anaïs Desjardins paru le 6 mars 2025 dans Le Devoir. Le mot « stop » sur un panneau d'arrêt au Canada comme au Québec est de l'anglais et contrevient à la loi sur les langues officielles lorsqu'il est affiché sur les lieux des organismes fédéraux comme les aéroports et les parcs nationaux. C'est ce que reconnaît un récent rapport du Commissariat aux langues officielles qui s'oppose ainsi à la position de l'Office québécois de la langue française, OQLF. Selon la loi sur les langues officielles, tous les panneaux et enseignes signalant les bureaux d'une institution fédérale doivent être dans les deux langues officielles, en conformité avec le principe d'égalité réelle, là où la partie 4 de la loi s'applique, explique le Commissariat aux langues officielles dans une réponse écrite. Le 17 février 2023, Jocelyn Leblanc, étudiant en droit à l'époque, dépose une plainte au commissaire aux langues officielles puis intente une action judiciaire contre l'aéroport de Saskatoon à la Cour fédérale. De passage sur les lieux, il constate que plusieurs informations sont uniquement en anglais, dont le nom de l'édifice et la signalisation d'un panneau « stop ». Auparavant, une seule aérogare avait été l'objet d'une plainte au commissariat en raison de ses panneaux d'arrêt, l'aéroport international Montréal-Trudeau. La signalisation a été changée à l'aéroport de Saskatoon et la cause est réglée à l'amiable. Toutefois, le commissaire aux langues officielles, Raymond Théberge, accorde raison à l'aéroport dans son premier rapport préliminaire, avant de changer d'avis en février 2025, d'après la preuve de l'experte Nadine Vincent. Être servi en français à l'aéroport est un droit acquis. Le Canada est officiellement bilingue depuis 1969 et mes droits ne sont pas encore respectés. Quand on arrive à l'aéroport et qu'on voit que c'est juste en anglais, on a l'impression qu'on n'aura pas de service en français dans le pays, dit M. Leblanc. en français, mais pas dans son usage. Le mot « stop » est accepté par les dictionnaires et par l'OQLF. Ce dont il est question ici, c'est l'usage du mot, explique Nadine Vincent, linguiste et professeure en communication à l'Université de Sherbrooke. C'est une question d'habitude, juge-t-elle. Contrairement à l'Europe, en Amérique, le panneau est utilisé pour montrer l'existence d'une langue, que ce soit le français, l'espagnol ou les langues autochtones. Le panneau sert de bannière, de pancarte, de manifestation. Ce n'est pas innocent, indique Mme Vincent, qui s'est penchée sur la question dans le cadre d'un article. C'est qu'au Québec, en 1982, dans la foulée de l'adoption de la loi 101, le Parti québécois donne 10 ans pour que tous les panneaux d'arrêt soient changés. Le 15 décembre 1992, proche de la date butoir, le gouvernement libéral décrète que le mot « stop » est aussi un mot français puisque les francophones l'utilisent. C'est pour une raison politique. Les libéraux voulaient récupérer l'électorat anglophone après l'échec de l'accord du Lac-Meech, soutient Mme Vincent, questionnée sur la raison d'un tel changement. Le commissaire aux langues officielles, qui est une institution fédérale, a rendu cette décision sur l'aéroport de Saskatoon. Mais, selon l'OQLF, une institution québécoise qui est pro-français, le panneau d'arrêt stop est considéré en français. C'est vraiment ironique qu'une institution fédérale soit plus pro-français qu'une institution québécoise, dit M. Leblanc. Mme Vincent tire le même constat. Et elle doute que cette décision ait des répercussions au Québec, puisque ni l'ordre provincial ni l'ordre municipal ne sont assujettis à la loi sur les langues officielles. Questionnée à ce sujet, l'OQLF fait valoir dans une réponse écrite envoyée au Devoir que les termes « arrêt » et « stop » sont acceptés pour désigner un arrêt obligatoire. Sur le plan linguistique, les deux sont justes en français. Il est possible pour une administration municipale de choisir d'utiliser l'un ou l'autre de ces termes, mais pas les deux à la fois. Les normes du ministère des Transports admettent l'une et l'autre de ces utilisations, conclut-il. C'était « Le mot « stop » sur un panneau d'arrêt est de l'anglais, selon le commissariat aux langues officielles », un texte de Anaïs Desjardins, paru le 6 mars 2025 dans Le Devoir.
Haïti Histoire. La semaine Eddie Cavé, à propos de l'ouvrage Extermination des pères fondateurs et pratiques d'exclusion, 2 de 7. Un texte de Leslie Péan, paru le 8 janvier 2025 dans Alter Press. La propriété terrienne est la pomme de discorde. Dessalines est assassiné le 17 octobre 1806 dans un complot ourdi par des généraux noirs et mulâtres associés liés à des commerçants américains. En effet, la fausse information de la mort de l'empereur était diffusée par le journal Le Petit Censeur, journal de la communauté française de Philadelphie, dès le 7 octobre 1805. Elle est reprise et véhiculée par Independent Chronicle de Boston, Massachusetts, le 14 octobre 1805, le Commercial Gazette de New York et le National Intelligence de Washington, le 21 octobre 1805. Une semaine plus tard, soit le 21 octobre 1805, Independent Chronicle rétropédale en affirmant que cette annonce était prématurée. De toute façon, selon ce journal, ce n'était que partie remise, car une grande jalousie subsiste entre noirs et mulâtres du Nouvel Empire et qu'une insurrection se produira bientôt. Selon une opinion fiable, Christophe deviendrait bientôt empereur, car la popularité de Dessalines diminue chaque jour et celle de Christophe augmente. Il est évident que d'importants changements auront lieu bientôt, mais on ne saurait prédire comment et sous quelle forme la tranquillité permanente sera établie. L'ère des fake news n'a pas commencé avec l'arrivée de Donald Trump à la présidence des États-Unis en 2016. Cette technique idéologique bien ancrée pour l'orientation et la manipulation de l'opinion a beaucoup d'antécédents. Le discours faux, des inexactitudes, ne commence pas toujours nécessairement avec des titres racoleurs à la une. Avec des insinuations bien placées, le commanditaire influence l'opinion pour arriver aux conclusions souhaitées. C'est le cas avec l'article annonçant la mort de Dessalines le 7 octobre 1805 et son remplacement par Christophe. Ce fake news agit comme une grenade à retardement qui finit par exploser un an plus tard, le 17 octobre 1806. La modification de la perception de Dessalines a réussi. Conscient du désir de révélation du secret et de la quête de vérité, les seconds couteaux de la presse américaine manipulent le besoin de communication. L'élimination de Dessalines ne s'est pas révélée une panacée pour le calme. Une guerre civile s'ensuit et le pays est divisé en deux États distincts. La faction mulâtriste, dirigée par Pétion, contrôle l'Ouest et le Sud, tandis que la faction noiriste, avec Christophe, contrôle le Nord. À la faveur de l'unification du pays sous Boyer, cette situation va se maintenir jusqu'à la révolution avortée de 1843. Le courant noiriste veillait à la coupe pour empêcher qu'elle ne déborde. En réalité, c'est avec la même superbe que les membres de l'armée indigène se succéderont au pouvoir jusqu'au renversement de l'empereur Faustin Soulouk en 1859. Ce dernier monarque est l'ultime représentant des 37 militaires qui ont signé l'acte de l'indépendance. L'influence de ces 37 personnes ne s'arrête pas non plus à leur mort. En réalité, on devrait parler des 264 militaires et administrateurs qui ont signé la circulaire du 22 septembre 1804 demandant que Dessalines soit proclamé empereur et intronisé le 8 octobre de la même année. Ses fondateurs, est-ce qualité, ont-ils initié la politique de doublure en plaçant Dessalines sur un piédestal avec un titre honorifique et des honneurs pendant qu'il se réservait les privilèges? Dans tous les cas, l'armée est omniprésente dans la vie de la nation et consomme un tiers du budget national de 1804 à 1915. La moitié du reste va au paiement de la dette de l'indépendance et aux réclamations étrangères. Les généraux gouverneront pendant un siècle. Et en 2020, le moindre quidam qui évoque leur nom le fait pour résister à tout changement, pour légitimer des bêtises et pour donner un sens à sa mauvaise conscience. Haïti est le berceau de la régénération de la race noire, tout comme l'Afrique est le berceau de l'humanité. Que les 37 hauts gradés qui ont signé l'acte de l'indépendance d'Haïti en soient conscients ou pas, les peuples noirs sont engagés dans une problématique beaucoup plus large que celle de l'avenir d'Haïti, à savoir la réfutation de la thèse de l'infériorité des Noirs par rapport aux Blancs. Un complot qui remonte à plus de 4000 ans, à l'époque où les connaissances des Égyptiens à la peau noire ont été emportées en Grèce. La responsabilité est lourde à porter. Et c'est là la vraie question dans la lutte contre le racisme blanc qui a tout fait pour vilipender les peuples noirs en maintenant à leur direction des incapables de tout acabit. Des incapables qui n'ont aucune idée ni la moindre conscience de l'ampleur de leurs responsabilités historiques. Pourtant, Valentin de Vasté, Louis-Joseph Janvier, Anténor Firmin, Hannibal Price, Jean Prismars avait compris le problème. Et ils ont fait de leur mieux pour débarrasser Haïti de l'esclavage mental qui se transmet de génération en génération avec pour corollaire l'obscurantisme et la dépréciation de soi. La réhabilitation de l'Égypte noire entreprise par Anténor Firmin dans son opus « De l'égalité des races humaines », un an après le partage de l'Afrique entre les Européens en 1884, en dit long. Le voile de silence des racistes ne s'étendait pas uniquement sur la révolution haïtienne de 1804, mais sur les conquêtes et les réalisations des peuples noirs depuis l'Antiquité. Vous écoutez Haïti Histoire, la semaine Eddie Cavé, à propos de l'ouvrage Extermination des pères fondateurs et pratiques d'exclusion 2 de 7, un texte de Leslie Péan, paru le 8 janvier 2025 dans Alter Presse. La falsification historique a une longue histoire dont les traces se retrouvent autant chez les vainqueurs que chez les vaincus. Autant des clochettes et des tambours. Le mensonge culturel fait floresse. Les idéologues noiristes ne se préoccupent même pas de remonter au moment où les divinités de la vallée du Nil se présentaient drapées de la couleur noire, alors synonyme de couleur des dieux et de beauté. À ce sujet, l'égyptologue grec Sotirios Meyassis écrivait « Le noir est bien souvent la couleur des dieux. Osiris était noir. Isis fut regardée comme une déesse noire et rouge, une nubienne, et figurait voilée de noir. Selon Porphyre Knef, le dieu créateur des Égyptiens était noir. Un dieu noir figure sur le tombeau de Séti Ier. Rappelons Déméter noir. Le noir fut pour les prêtres égyptiens une des couleurs sacrées. Ce sont des noirs égyptiens qui n'étaient ni noiristes, ni noirocentristes, ni prisonniers d'une logique de la couleur de la peau qui ont enseigné aux Grecs de race blanche, à partir de Pythagore, les éléments fondamentaux de la physique, de la cosmologie, de l'astronomie, de la musique, de la philosophie, des arts, de la littérature et des mathématiques. Des disciplines qu'ils avaient maîtrisé, dont on peut encore admirer les applications dans la structure des pyramides et dont les égyptologues eurocentristes se sont emparés finalement en décidant de blanchir les Égyptiens. Tentative désespérée que dénonçait déjà en 1885 l'égyptologue haïtien Anténor Firmin. D'autres travaux scientifiques, dont ceux du savant sénégalais Tchékanta Diop, confirmeront la noirceur de la peau des Égyptiens. Dans le dessein de contrecarrer les tentatives d'émancipation des peuples noirs du continent américain, les nations blanches à vocation hégémonique ont tenté, au moins en deux occasions, de récupérer à leur profit une révolution triomphante. La première fois en 1803 en Haïti, la deuxième fois à Cuba, entre 1901 et 1903. Quand, après la capitulation française de novembre 1803, les vestiges de l'armée française s'apprêtent à quitter le port du Cap, assiégé par la flotte britannique, le commandement britannique offre ses bons offices à Dessalines pour organiser et superviser leur départ. Flairant le piège, Dessalines décline poliment l'offre reçue et laisse aux vaincus le soin de se faufiler par leurs propres moyens entre les mailles du filet britannique. Le même scénario se répétera à Cuba, un siècle plus tard, lorsque l'armée espagnole vaincue par les troupes cubaines se trouva dans l'obligation de se retirer définitivement de l'île. Après de multiples négociations, c'est avec le commandement de la flotte américaine que sera conclu le traité de capitulation qui ouvrira la voie à l'amendement Platt et à la cession de Guantanamo, talon d'Achille de la Révolution cubaine. le retour sur le passé que propose Eddie Cavé tente de donner une signification au présent en provoquant une réflexion sur le parcours des 37 pères fondateurs. Ils abordaient l'inconnu de l'avenir avec une dimension spirituelle, incapable de cimenter les groupes sociaux et sans une claire compréhension du fonctionnement du reste du monde. Le savoir à la tête du nouvel État est très limité, mais avec des dirigeants qui savent à peine lire et écrire, mais qui refusent de reconnaître leur incompétence. Comme l'a écrit l'économiste et industriel Edmond Paul, c'était vraiment des pères de la patrie, car eux avaient fondé l'État. Et le peuple enfant devait obéir. Le baron de Vasté, un des éminents acteurs de la période, devait faire en 1819 le diagnostic suivant. Nous sommes bien excusables, sans doute, d'avoir erré dès nos premiers pas dans l'art difficile du gouvernement. Les intérêts matériels n'étaient pas les seuls à dicter les comportements. Les luttes pour le pouvoir et celles contre le préjugé de couleur étaient tout aussi importantes. Les mots « noir » et « mulâtre » étaient devenus des « hashtags ». Des mots dièses. Ces sensibilités apparaîtront à visière levée après l'indépendance sous des déterminations multiples. Le cas d'école est la révolte de 1843, commencée au Caï par les Salomon en 1843, alors que cette famille avait été du nombre des grands bénéficiaires des gouvernements de Pétion et de Boyer. Au même titre, que d'autres familles noires telles que les Cazot, les Rameau, les Domingue, les Claude, elle avait reçu en don sous le gouvernement de Boyer des propriétés terriennes et des postes importants dans l'administration des douanes et des finances. Commencée au Caï, elle sera vite détruite autant par le mulâtrisme des Hérard que par le noirisme des Salomon. En même temps, on a souvent parlé du leader militaire Akao, en gardant sous silence l'essence de la révolte de 1843, qui était de changer le cours de l'histoire, de modifier le pli qu'avait le caractère national façonné au militarisme, à l'idolâtrie de la force par le régime colonial. À suivre. C'était Haïti, Histoire, la semaine, Eddie Cavé, à propos de l'ouvrage « Extermination des pères fondateurs et pratiques d'exclusion 2 de 7 », un texte de Leslie Péan, paru le 8 janvier 2025 dans Alter Presse.